RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Le meilleur des grandes gueules, c'est avec vous tout au long de la semaine, en attendant le retour des GG le 10 août prochain. Bonjour à toutes et tous, bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Les discussions que nous avons eues avec les GG, que vous avez animées bien sûr, au 32-16, voilà ce que l'on réécoute jusqu'à vendredi.
On parlait notamment de la consommation de vin qui est en baisse, alors celle de la bière, elle, est en hausse. Le pinard, c'est devenu ringard, et puis on parlait aussi des passages à niveau. Il y en a encore beaucoup en France, sont-ils suffisamment sécurisés?
Allez, on réécoute tout ça.
Je pense la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire.
Alors, est-ce que vous trouvez scandaleux que les responsables politiques, que nos élus, enfin certains, voyagent en business ou en première? Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça?
S'intéresse au voyage d'Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Vous savez qu'il y a eu ce fameux voyage à Tahiti qui a été reproché à la maire de Paris. Et là, cette fois-ci, Mediapart a comptabilisé tous les voyages d'Anne Hidalgo entre 2020 et le début de l'année 2025. Rio de Janeiro, Rabat, Porto, New York, Vienne. Au total, Mediapart a comptabilisé près de 90 déplacements internationaux effectués par la maire. Et alors, ça s'accélère, hein, puisqu'il y en a plus de 20 depuis le début de l'année. Alors, ce sont les voyages annoncés officiellement par un communiqué de la ville de Paris. Et on s'aperçoit que quand Anne Hidalgo voyage, c'est toujours en business lorsqu'il s'agit de l'avion et en première lorsqu'il s'agit du train. Alors que les adjoints, eux, en revanche, a priori, voyagent en classe économique. Alors, est-ce que c'est choquant? Est-ce qu'elle devrait faire des efforts, d'autant plus que sa ville est endettée? On se souvient de la polémique sur Jean-Luc Mélenchon qui voyageait également en business. Il nous a expliqué que c'est parce qu'il avait mal au dos et qu'à son âge, on ne pouvait plus voyager comme les autres. Donc, est-ce que nos responsables politiques devraient faire des efforts et faire des économies sur leur voyage?
Florent.
C'est encore démagogique. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé il y a 10 ans à l'Élysée. À l'Élysée, on avait une règle RH qui était la même pour tout le monde, qui était que quand on a un long courrier, moins d'un long courrier par semaine, il est en écho. Que je vous dise pas de bêtises parce que j'ai oublié le détail précis, mais quand on en a 3 ou 4 sur 2-3 jours, bah on doit les faire en business. Quand vous avez un rythme où vous faites plusieurs nuits d'affilée dans un avion et que vous devez travailler et que vous faites ça parce que c'est pour représenter le pays ou dans mon cas organiser la représentation du pays, c'est légitime. Donc en fait, il faut pas tout mélanger. Moi, à l'époque, il y avait des règles très strictes. J'imagine que à la ville de Paris, elles sont strictes aussi.
Ah bah les strictes, c'est qu'elle voyage chaque fois en business.
La maire de Paris, je pense pas que quand la maire de Paris fasse 2 heures de vol, elle se mette en business. Je pense que quand elle fait des allers-retours sur une semaine où elle doit arriver,
sur les courts courriers, à plus de
vraiment, je vous souhaite de faire un déplacement ministériel ou politique. Quand vous voyagez de minuit à 6 heures du matin, qu'à 7 heures du matin, vous êtes devant des caméras pour faire ce que vous avez à faire, que après vous enchaînez des réunions diplomatiques à très fort enjeu pour le pays, que le soir vous reprenez un avion et ce pendant une semaine, vous avez juste le droit de dormir dans l'avion. Et effectivement, quand on a Anne Hidalgo, quand on est maire, qu'on a toute la pression d'un maire et qu'on a pas 20 ans, c'est pas facile de faire ça. Donc voilà. Évidemment, ça vous intéresse quand c'est Anne Hidalgo. Donc,
on soupçonne Anne Hidalgo d'accélérer ses voyages puisqu'il y en a au moins 20.
Plus pour longtemps.
Parce que elle est en campagne pour avoir un poste à l'ONU. Et donc, non seulement on peut s'interroger sur le fait qu'elle voyage en business, mais on peut même s'interroger sur le but de ses voyages. Est-ce que c'est vraiment pour représenter Paris ou est-ce que c'est simplement pour faire sa propre campagne pour le poste qu'elle veut occuper après avoir quitté la ville de Paris? Alors là, ça serait même un peu embêtant parce que là, on pourrait être quasiment détournement de fonds publics.
Qu'est-ce que vous en pensez, Paul? Jean-Paul. Jean-Loup.
Roger. Bernard.
Paul.
Maréchal. Pas du tout. Tu sais, mon grand-père était gaulliste et résistant et a même conduit le général de Gaulle en 44 dans la ville de Villers-le-Lac. dans le
on vérifiera ces informations.
Donc, ah, tu vérifieras. Mon grand-père, Henri Bouaillon, résistant, membre des FFI, gaulliste, et qui a conduit le général de Gaulle en 44 dans la ville de Villers-le-Lac, et qui détestait, à raison, le maréchal Pétain.
Eh ben, son petit-fils, c'est pas pareil.
Bon, investi des pleins pouvoirs par une chambre de Gaulle.
Je le rappelle. Parce que là, c'est pas le faire pour un pétainisme.
Ouais. Et donc, tu n'y arriveras pas. Ouais. Et donc, par contre, ce que je voulais dire, c'est que, concernant Madame Hidalgo, là, ça me paraît, quand tu es à la tête d'une ville qui a 11 milliards d'euros de dettes, qu'on envisage même la possibilité d'une mise sous tutelle de la ville de Paris. Quand on est dans un contexte national où on demande aux Français de faire des efforts, de se serrer la ceinture, qu'on rabote tout, qu'on supprime des postes d'infirmiers à l'hôpital, etc., etc. Quand tu as déjà toi-même été épinglé pour tes voyages à Tahiti, tu ne peux pas te permettre ça. Et de manière générale, la classe politique, à un moment, on demande des efforts aux Français, que ce soit on demande des efforts aux Français. La classe politique, que ce soit les politiques du RN, de droite, de centre, du gauche, ils doivent donner l'exemple et faire des efforts. Et même ça serait dans leur intérêt, parce que du point de vue de la communication, du point de vue de la tactique politique, de la stratégie électorale, franchement, prendre la deuxième classe, bah ça serait en fait assez rentable. Ça montrerait qu'ils sont moins déconnectés de la réalité, qu'ils sont proches des gens, que voilà, qu'ils veulent vivre normalement, qu'ils sont pas là pour se gaver, qu'ils sont pas là pour faire de l'abus de bien social, et donc qu'ils sont respectueux des deniers des Français, voilà, et économes sur le budget. Ça serait plus malin. En fait là, Anne Hidalgo, comme l'a dit Olivier, elle s'en fout parce qu'elle est pas candidate en 2026 à sa propre succession.
Elle en profite.
Donc, alors qu'elle a déjà été épinglé pour Tahiti. Voilà, donc moi ça me dérange, mais il n'y a pas que Anne Hidalgo, hein, ça vaut pour les politiques de tous les bords. Il n'y a pas qu'elle. Hein.
Mourad.
Alors ce qui est marrant chez Flora, c'est qu'elle est pour la mixité, mais pas dans les avions.
Ah oui, faut séparer les pauvres et les riches.
Là, dans l'avion, les riches et les pauvres, pas dans la même
place des Vosges, mais dans l'avion, non.
Non, les personnes qui travaillent dur et qui représentent nos intérêts.
Et dans l'avion, tu crois que les personnes qui travaillent dur sont tous en business.
Quand un ministre ou un maire va négocier des milliards d'euros ou des enjeux diplomatiques lourds pour les intérêts de la France, je préfère qu'il ait bien
dormi. Qu'est-ce que négocie la maire de Paris à l'étranger?
Ah bah beaucoup de choses. Elle était patronne du C40, qui est le consortium des villes dans le monde entier. Elle avait déjà une fonction diplomatique pendant son mandat qui était très importante.
Enfin, elle négocie pas des milliards d'euros.
Si, bien sûr que si. Notamment sur les questions d'accueil. Ah bah,
elle a mal négocié.
Les touristes viendront toujours à Paris quand elle sera plus là.
Bon, allez.
Mais quand elle sera plus là, la majorité restera socialiste. Donc vous allez voir. Et j'ai hâte de ce jour où on fêtera la victoire de Emmanuel Grégoire, qui est le candidat à sa succession.
Je pense qu'il sera plus sobre.
Et que vous direz, mince, on a fait 5 ans de campagne anti-Hidalgo et on n'a même pas réussi à les faire tomber.
Je pense qu'il sera plus sobre parce que sur le voyage de Tahiti, il avait notamment une position plus critique.
Alors,
Mais c'est une question.
On s'en prend à Hidalgo parce qu'elle est un peu dans l'excès. Quand je dis m'amuse, elle est beaucoup dans l'excès, mais c'est le problème de la classe politique. La classe politique, il ne faut pas croire qu'ils ont des convictions. Ce sont des gens qui, je l'ai dit, je le répète, qui dans la vie normale auraient du mal à avoir ce train de vie, auraient peut-être même un train de vie.
Ils seraient en Ouigo,
ils ne seraient pas en première. Mais ils s'accrochent à tout ça, tous parce qu'ils se redonnent un train de vie quasiment de patron du CAC 40 pour certains. C'est inespéré. Et ce qu'il faut que les Français comprennent vraiment aujourd'hui, c'est qu'on a une espèce d'oligarchie qui s'est instaurée l'autorité, le savoir, qui s'est instauré l'argent public, et que quel que soit le coût que ça représente, ils s'estiment au-dessus, malgré la merde dans laquelle ils nous ont mis. Anne Hidalgo en est une image. Moi, ce que je proposerais à la rigueur, c'est que le train, c'est pas très gênant, parce que l'écart de prix entre la seconde et la première, il n'est pas pharaonique.
L'avion,
un Paris-Toulon, un Paris-Marseille en seconde, c'est 100 euros, en première, c'est 200. Par contre, un billet d'avion, c'est 5 fois le prix en business. C'est-à-dire que si elle va à New York en éco, ça va être 700-800 euros. Si elle y va en business, ça va être 4000 euros. Et là, moi, ce que je proposerais, c'est qu'elle prenne en charge la différence entre l'éco et le business.
Voilà, ça serait une solution pour moi. Si elle veut voyager en
business. Moi, je voudrais aller plus loin qu'Anne Hidalgo.
Mais après, c'est notre pognon. Il faut pas qu'il oublie, c'est notre pognon. Voilà, c'est pas son argent. Mais il y a confusion.
Est-ce qu'on peut instaurer un peu de sobriété
dans
le train de vie de ceux qui nous gouvernent? Pardon, hein, mais Flora, tu me dis la gauche. Il y a une gauche, la gauche du nord de l'Europe, qui a instauré des règles très simples. Oui, celle du Danemark, de la Suède, où on n'a pas des chauffeurs dès qu'on est à la moindre fonction. On paye ses vacances. Ouais. On ne mélange pas effectivement les voyages professionnels avec des voyages privés, ce qu'a fait Anne Hidalgo avec Tahiti pour aller voir sa fille.
Elle est intouchable.
On n'est pas servi par des huissiers en gants blancs. Enfin, sincèrement, hein, dans d'autres pays, ça se fait. Pardon, Flora. Et je comprends même pas quand on se dit de gauche qu'on trouve pas ça évident. D'autant plus qu'on est dans un pays endetté, dans une ville endettée, et qu'on demande aux Français de faire des efforts, et qu'on va leur demander de faire des efforts, parce que sinon,
le budget annuel de la ville de Paris, c'est 11 milliards et quelques d'euros.
Oui,
11 milliards.
Mais sans billets, les pays avec de la dette.
Il y a 11 milliards de budget pour faire tourner cette ville qui, non seulement est la capitale de la France, mais en plus, selon moi, est la capitale du monde, puisqu'elle a un rayonnement. On parlait tout à l'heure de la place des Vosges et des touristes. Elle a un rayonnement dans le monde entier.
Faudra un peu réagir, ça n'a rien à voir avec les élus.
La facture de différents business entre la classe éco et la classe business de Anne Hidalgo, vous pensez qu'elle s'élève à combien de pourcents de ces 11,5 milliards?
C'est une question de principe. Alors, elle peut voyager en première, c'est 20 000 euros. C'est pas grave,
elle achète un avion.
C'est pas vrai, un avion, ça coûte très cher.
À Falcon.
0,0001%. On est en train de débattre là-dessus?
Oui, il y a la dimension symbolique.
Il y a la symbolique, l'exemplarité.
Il y a 15% des Français. Il y a 15% des Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté, mais nous, on parle de symboles.
Donne-moi une raison dans les résultats d'Anne Hidalgo, donne-moi une raison pour lui payer la business class. Une raison.
Alors, je l'ai donné tout à l'heure.
Qu'elle a créée dans Paris. Donne-moi un euro qu'elle a créé, Anne Hidalgo.
Alors, je vais t'en donner. Tu veux un exemple très concret?
Ouais, j'en veux bien, ouais. Un instant, tu le donneras. Et on écoutera Thomas, qui est en recherche d'emploi, qui est du côté du Val d'Oise et qui veut réagir.
Il voyage pas en
Est-ce
business.
Que vous êtes choqué par le fait que nos responsables politiques ou certains voyagent en première ou en business? Thomas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir patienté. Bonjour, vous avez écouté tout le monde. Qu'en dites-vous, alors?
Bah, écoutez, je trouve ça vraiment fort de café pour être gentil, parce que. Est-ce que c'est encore normal qu'on se pose la question? Est-ce que c'est choquant? Bien sûr que oui. On demande aux Français de faire tous les efforts possibles, inimaginables, les taxes sur tout. Ils veulent nous taxer sur tout. Donc il y a aucune logique. Et là, on entend « Oh oui, mais vous savez, ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer, c'est très dur pour eux, l'avion. » Non mais c'est une blague, Madame Guebali. Là, franchement, vous me faites doucement rigoler, parce que ce que j'ai entendu, c'est choquant. Il y a plein de monde qui est choquant. Et quand vous dites c'est 1% sur le budget de la mairie de Paris, ben, on prend l'exemple de Madame Hidalgo, mais je les mets tous dans le même sac. Hein.
C'est-à-dire, oui, on est d'accord.
Mais Madame Hidalgo, elle s'illustre dans tous les domaines par la... Je vais pas dire...
Oui, c'est vrai qu'elle fait sans faute, elle. Le grand chelem.
C'est incroyable. Plus elle est là, plus elle fait des conneries. Voilà.
Vous les appelez de la sobriété, quoi, en fait, c'est ça.
Bah, et on a aboli la monarchie, quand même. Mais je crois qu'il y en a certains qui en sont peut-être un peu nostalgiques.
Une nouvelle nuit du 4 août.
Ouais, l'abolition des privilèges.
Voilà, l'abolition des privilèges.
Je pense que ça va être un vrai sujet, Thomas.
Être élu de la nation, ça veut pas dire profiter de l'argent public.
Ouais, sans être démago, parce qu'effectivement, on va pas non plus leur demander de vivre avec rien, mais je pense que ça va être un vrai sujet, puisque dans les années à venir, on va effectivement devoir se serrer la ceinture. Ouais. Les gens se rendent pas compte dans quel état sont nos finances publiques à tous les niveaux, aussi bien au niveau collectivité que étatique. Et donc, à un moment donné, la mairie de Paris, il y a 55 000 fonctionnaires. Il va falloir dégraisser, on le sait bien. Il y a plus de fonctionnaires à la mairie de Paris que la commission de Bruxelles. Quand on dénonce toujours les fonctionnaires européens, il y en a plus à la mairie de Paris. Ils travaillent 32 heures. On l'a déjà fait passer à 35 heures. Ils travaillent à 32 heures. Anne Hidalgo a fait un bras de fer pour les faire travailler 35 heures. Il va falloir demander de faire des efforts. C'est plus possible. Ça, on peut plus vivre comme avant. On n'a pas. Et donc, il va falloir quand même si c'est symbolique, bien sûr, ça va pas. C'est pas ça qui va résoudre la dette parisienne. Mais il va falloir que chacun fasse des efforts. Et les élus devront faire des efforts. Ça sera difficile de demander ensuite aux Français des augmentations d'impôts,
remboursements. C'est un état d'esprit général que tu inculques autour de toi. Oui. Si toi, tu fais des efforts, tu donnes le tempo à tous les autres, bien sûr.
Un dernier mot sur cette affaire.
On dise que tout le monde va devoir se serrer la ceinture, il y a aucun problème avec ça. Que on dise que le problème de l'argent public, c'est pas que une question de prélèvement de l'impôt, mais aussi une question de dépenses, et que l'État doit être plus. Par exemple, il y a un truc lunaire qui est qu'il y a des gens qui ont les mêmes compétences au niveau municipal, au niveau départemental et au niveau régional. Donc on paye trois fois des gens différents pour faire la même compétence, et donc on ne sait pas pourquoi on fait ça.
Et
ça,
pour pas qu'ils soient.
Moi, je suis la première à dire qu'on doit remettre à plat cette question-là, et regardez où est-ce qu'on peut faire des économies. Dans n'importe quelle entreprise privée, quand vous avez beaucoup de déplacements, vous avez une grille. Si vous déplacez une fois par an, vous voyagez en éco. Si vous déplacez une fois par mois, vous voyagez en éco. Si vous voyagez tous les jours, bah vous déplacez en business. En fait, c'est pas une. Tu dis que je fais pas de la mixité sociale, c'est pas une question de mixité sociale. C'est une question de. Je pars en vacances trois semaines, je voyage en éco. Je pars 24 heures, signer un accord à l'autre bout du monde. Bah en fait, enfin, c'est juste.
Plus de 20 voyages depuis 2005.
C'est juste des règles RH.
Alors, merci Thomas. Thomas, il demande de la sobriété à nos.
C'est pire que dans
Moi, j'ai déjà été amené à faire des déplacements professionnels à l'étranger. Je suis allé en Suède, je suis allé au Cameroun pour participer à des colloques universitaires. Le voyage a été pris en charge par ceux qui m'invitaient. Ils ne m'ont pas payé la business. Il y a plein d'entreprises où tu voyages, on ne te paye pas.
Moins en moins,
et ils ont eu raison de ne pas me payer la business.
Et moi, j'ai payé la classe éco. J'ai voyagé une grande partie de ma vie en éco. J'ai pu un jour me payer la business parce que j'ai travaillé.
Et alors quoi, la maire de Paris, elle travaille
non.
pas tu penses qu'elle est au 32
ans ? Politique qui voyage en classe business,
Est-ce que vous trouvez ça scandaleux ?
Avec
55 000 fonctionnaires, je ne pense pas qu'elle travaille.
Est-ce que vous trouvez ça scandaleux ? Oui, c'est une honte à 88%.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
Vous savez, Mathieu Delormeau, c'est l'animateur, le chroniqueur, vous l'avez pu le voir notamment chez Cyril Hanouna. Tout est parti du fait que le Premier ministre veut tester ceux qui travaillent dans les ministères et faire du dépistage de stupéfiants. Aujourd'hui, pour le consommateur, l'amende est de 500 euros. Mathieu Delormeau est resté longtemps dans l'addiction, cocaïne, drogue de synthèse. Il s'en est sorti. Il rappelle d'ailleurs dans le livre, il l'avait dit ici sur RMC dans les GG, que ce sont des médecins qui l'ont initié. D'ailleurs, en disant, tu vas voir, tu vas kiffer, tu vas t'amuser, ça va être bien. Pour des plans à trois. Et derrière, il est tombé là-dedans, Mathieu Delormeau, mais il dit, mais peut-être que si j'avais eu peur de la sanction, j'aurais été davantage conscient. Écoutez-le.
Maintenant, le seul moyen de diminuer la consommation de drogue, et je rappelle qu'aujourd'hui, la consommation de drogue, elle a fait 100% entre 2022 et 2026, c'est de s'attaquer aux consommateurs. Quand il n'y aura plus de consommateurs, quand il n'y aura plus d'offres, il n'y aura plus de demandes. Il faut une répression très très forte, il faut faire peur aux consommateurs, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait des licenciements, éventuellement, il faut qu'il y ait des pertes d'emplois, il faut qu'il y ait vraiment un arbitrage dans votre vie qui fasse que, oui, vous vous faites soigner, sinon ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux que ce soit partout, mais partout. Moi, un seul exemple, le mien. Moi, si j'avais dû choisir entre le travail et la drogue, j'aurais pris le travail.
Voilà, il faut qu'on ait peur. Est-ce qu'il a raison, Mathieu Delormeau ? Il faut être plus sévère avec le consommateur. 32-16 pour le dire. Alors, c'est vrai, normalement, l'amende aurait dû passer à 500 euros, l'amende forfaitaire. Elle était à 200, elle était à 500. C'est la proposition de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça a été voté ou pas ?
Je crois que c'est encore en cours et il me semble même que ça sera débattu courant octobre. Et en tout cas, l'amende forfaitaire délictuelle aujourd'hui, elle est toujours
de 200 euros. Alors, est-ce qu'il faut être davantage plus sérieux avec le consommateur ? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Jean-Loup Bonamy ?
Eh bien,
Deux remarques.
Non, justement.
La méthode salvadorienne.
Voilà. Zéro remarque plutôt, parce que.
Et les envoyants en Albanie.
Je ne sais pas. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je me pose la question et que je n'arrive pas à avoir une réponse et un avis sur le sujet. Donc, vraiment, les propos de Mathieu Delormeau.
Tu ne consommes pas toi-même.
Non, je ne consomme pas moi-même. Et.
Je me scoop.
Et donc, eh bien, je n'arrive pas à me faire un avis.
Je ne sais pas si la sévérité va dissuader.
Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que je constate que ça touche énormément de milieux. Parce que dans les années 80, c'était l'explosion du trafic de cocaïne, Scarface, et ça se voit, c'était dans des milieux privilégiés. La finance, notamment. La finance, le show business, un certain nombre de milieux. Tu vois qu'aujourd'hui, c'est resté dans ces milieux, mais ça s'est étendu. Justement, Mathieu Delormeau le dit, les médecins, t'as une partie des médecins qui, pour tenir le coup, les horaires et tout, consomment notamment de la cocaïne. Tu vois, chez les cadres de province, ça c'est un phénomène, c'était pas le cas dans les années 80, aujourd'hui, c'est le cas. Chez les marins-pêcheurs, nous dit-on, on avait des témoignages de gens à la RATP. Donc tu vois, dans la restauration, tu vois que ça s'est étendu, ça a gagné beaucoup de la cocaïne notamment, dans énormément de milieux. Et donc je ne sais pas, c'est évident que la question du consommateur est une question centrale, il n'y aurait pas de consommateur, il n'y aurait pas de trafic. Est-ce que la sévérité contre les consommateurs marche? Eh bien je ne sais pas, je n'arrive pas à me faire un avis. Pégant.
La question qui est posée là, c'est drogue, faut-il licencier les consommateurs? Oui. Moi je pense que oui. Et je trouve que ça serait une mesure qui serait même préventive, parce que du coup, tu aurais la peur de perdre ton emploi. Donc la peur de perdre ton salaire, donc la peur de perdre ton toit, la peur de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement un fléau que pour moi, et encore plus pour les membres du gouvernement où il y a un devoir d'exemplarité, tu dois pouvoir constater que ton salarié ne soit pas en état de...
Est-ce que tu pourrais dépister dans ton cabinet ou pas?
Ah oui, moi ça me poserait aucun problème. Si c'était autorisé, oui, je le ferais.
Alors là, j'ai deux remarques.
Ouais. Non, mais je...
Parce que franchement, je dirais, comment tu peux être efficace si... Là,
je te dis ça, pardon, hein, je t'interromps, ouais, parce qu'il y a un magistrat,
oui,
à Bobigny,
sûr, oui,
tu as vu, hein,
oui, un procureur qui a,
voilà,
été,
qui a été suspendu.
Il a été rétrogradé.
Rétrogradé.
Il
consommait de la cocaïne, des drogues de synthèse, du chemsex.
18 000 euros dans la poche des dealers.
Et donc, il y a eu quoi? Il y a eu des conséquences sur l'efficacité de son travail, sur le fait que les réunions de travail, quand il arrivait, c'était toujours en retard, qu'il n'examinait pas correctement ses dossiers. Donc forcément, tu vois, donc ça a des conséquences sur ton travail. Donc à un moment donné, je pense que oui, il est nécessaire de pouvoir leur dire attention, si je détecte que vous avez consommé de la drogue, eh bien la conséquence immédiate serait le licenciement.
Mais alors deux remarques. Un, il faut, imaginons que ça marche. Je sais pas, moi je ne sais pas si ça marche ou pas. Imaginons que ça marche, faut pas croire que il y aurait pas de conséquences et que les gens ne se reporteraient pas sur autre chose. On verrait apparaître d'autres phénomènes de compensation. Hein.
Faut, oui. Voilà.
Et deuxièmement, imagine t'as un collègue. Alors un collègue sympa avec lequel tu t'entends bien et en plus qui fait bien son travail, qui fait efficacement son travail. Et il est testé positif. Et on se rend compte que ça n'a pas eu d'impact négatif sur son travail, contrairement à ce magistrat. Est-ce que ce collègue, est-ce que là tu le vires?
Alors la première fois, tu lui fais un rappel à la loi. Et ensuite de quoi? Si tu y as une autre détection et qu'à ce moment-là il est encore positif, bon là au bout d'un moment.
Que c'est aussi une addiction, hein, les gens.
Oui, c'est une addiction,
oui,
mais
c'est une maladie.
Enfin, sauf si à un moment il en sort. S'il en sort pas, ça va.
Alors, et c'est vrai que au niveau.
Il y a toujours un passage où ça se détériore.
Est-ce que si sur le sujet on peut sortir de l'hypocrisie?
Tu peux pas le laisser comme ça, quoi. Donc tu l'encourages à se soigner. Si tu veux, mais tu le mets en garde ou tu
voilà,
le suspends.
Un rappel à la loi, mais
parce que ça dégénère à un moment.
Je me demande quelle drogue consomme Olivier Truchot, parce que vu les thèses farfelues qui défend
sur l'Europe,
par exemple, qui défend souvent sur ce plateau.
Une incitation comme quoi ils se droguent.
Mais c'est pas bio.
Juste au niveau du constat, faut faire attention, parce que quand tu vas vouloir détecter le fait que tu prennes du cannabis ou de la cocaïne, ça peut être détecté, par exemple pour le cannabis, ça peut être détecté jusqu'à 8 jours après ta consommation, et pour la cocaïne, ça peut jusqu'à 14 jours. Donc bon.
Alors, Abel, je te donne la parole dans un instant, parce qu'il y a Thibault qui est secrétaire général d'une association dans le Tarn-et-Garonne qui veut réagir. Bonjour Thibault.
Bonjour, grande gueule, comment allez-vous?
Salut Thibault. Est-ce qu'il faut être plus sévère avec les consommateurs, voire les licencier de leur boulot? Dites-moi.
Moi je trouve que c'est un aveu d'échec. Je pense que si on compte le nombre de consommateurs en cible, elle est énorme, alors que le nombre de vendeurs, il est certainement moins énorme. Et puis il faut quand même se rappeler que quand on consomme, c'est un problème d'addictologie, c'est un problème de santé. Alors le mec, il est consommateur. On va lui virer son boulot, on va lui payer des amendes. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va consommer dans la rue, il va se mettre à dealer pour pouvoir payer sa conso. Donc du coup, finalement, le problème, on le prend pas mal. Quand on est malade, on peut pas sanctionner les gens. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent ne plus être addicts de toutes ces drogues.
Oui, mais le licenciement, ce serait la conséquence. Au final, il y aurait d'abord eu des rappels à la loi, des injonctions de se soigner.
Est-ce que ça prend le... Il faut que ce soit accompagné d'injonctions de se soigner, parce que ça règle pas le problème.
Vous avez consommé plus jeune, vous?
Ça m'est arrivé comme beaucoup de jeunes.
Qu'est-ce que vous avez consommé?
Des drogues douces type cannabis. Quand on est jeune, on au lycée, on fait des jeunes.
Et vous êtes arrêté?
Comment?
Vous vous êtes arrêté après?
Oui, voilà, puis c'était occasionnel. Donc moi c'était pas un problème, si vous voulez. Ah, après, si le consommateur qui est pris en flagrant délit dans la rue, bien sûr qu'il faut le sanctionner parce qu'il peut pas. Mais après, il faut quand même se rendre compte que c'est un aveu d'échec de nos politiques publiques par rapport à tous ces trafiquants de drogue. Je pense quand même que on connaît l'endroit où ils sont, on sait comment les drogues elles arrivent en France. C'est juste voilà, il faut de la volonté aussi un peu plus forte politique pour pouvoir éradiquer ça. C'est pas le pauvre consommateur qui est malade, qui va perdre son travail, qui va devoir payer des amendes énormes. Et puis je connais pas ce Mathieu Lormeau, il s'achète une conscience.
C'est possible. Tous les repentis, une fois qu'ils ont arrêté, sont encore plus sévères, bien sûr. Mais sauf qu'il peut témoigner.
Il
a dit lui-même, ça lui a coûté une partie de sa vie, ça lui a coûté son cercle d'amis. Il aurait peut-être pu continuer sa carrière, mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il en parle en connaissance de cause. Écoutez ce qu'il disait aussi à propos de ce qui se passait chez lui dans ses soirées.
Moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC. Il y avait des hommes politiques, évidemment.
Et qui prenaient
de la cocaïne, de la 3MMC, des gens très connus.
Qui pèsent dans le pays.
Ah oui, bien sûr.
Fait la loi, qui sont au pouvoir.
Bien sûr.
Monsieur Abel Bouy.
Mais tu sais,
t'aurais dû insister pour avoir les noms, là.
Mais tu sais, les aurait pas donné, de toutes les manières.
Ce qu'il dit, c'est un secret de polichinelle, en réalité, on le sait tous. Moi-même, dans le cas de l'accompagnement de filles qui sortent des réseaux de prostitution des mineurs, elles me disent que parmi les clients, elles ont eu des gens très connus, très puissants. Mais monsieur Le Cornu, autant sa mesure peut être intéressante, mais il aurait dû aller au bout et expliquer ce qui s'est passé dans son cabinet. L'information
c'est notoriété publique.
Michel Stumboff, qui était son conseiller chargé de l'agriculture, qui a fait une overdose fin décembre dans une soirée chemsex, tellement déchirée, ce sont les pompiers qui sont venus le chercher. Et puis j'ai creusé un peu, tu sais par qui était organisée cette soirée chemsex ? Par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France, Hugues Bié-Charenton. C'était chez lui, en fait, qui lui-même était défoncé. Alors, le gars du cabinet de Le Cornu, il s'est fait virer, mais monsieur Charenton, il a été recasé à Bercy. C'est un mec qui touche 21 000 euros par mois avec nos impôts. Donc, faudrait que Le Cornu puisse être... Comment ?
Il s'en est peut-être sorti
entre-temps. Mais pourquoi l'autre a été viré et l'autre a été recasé déjà ? Ça a été traité de deux manières différentes. Deuxièmement, l'hypocrisie, elle est où ? Le marché du trafic de stup, c'est 7 à 8 milliards. Ça veut dire qu'on a déjà perdu le combat en réalité. On a perdu le combat. Il y a tellement de drogues, il y a tellement de possibilités de se reconvertir dans d'autres consommations. Et maintenant, tu prends le test salivaire. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les opioïdes et les hallucinogènes, ils sont pas tous détectables par la salive, il faut des prises de sang. Donc on va pas au bout de la chose. C'est une hypocrisie pour se dire allez, on va agir, mais ça ne va rien changer du tout en réalité.
Sauf ça a peut-être dissuadé. Moi, je crois pas.
Une personne addict ne va pas être dissuadée de ne pas consommer.
Ben alors, regarde, Mathieu Delormeau, il était addict, il a pris conscience de son problème
quand
et il
s'en
est
tout
sorti.
Perdu. Non, il a des gens pris qui conscience sont... quand il a tout perdu. Sa vie professionnelle, il a perdu tous ses amis, il a témoigné, il est resté un an et demi chez lui sans sortir. Oui, c'est quand il s'est cassé la figure.
En pleine crise de parano, parce qu'il avait poussé l'addiction et la consommation le plus loin possible. Mais dans ton milieu, celui des avocats,
c'est
un fléau.
Bien sûr, ah oui, c'est une réalité, hein. Je ne suis pas en train de vous donner un scoop. Non, c'est une réalité.
Parce que alors nous, on nous dit quoi autant.
On nous dit en tant qu'avocat, oui, alors il y a beaucoup de confrères qui en prennent. Pourquoi ? Parce que donc du coup, tu as un sentiment de surpuissance, parce que tu veux aussi à un moment donné t'enlever une espèce de charge mentale, puisqu'on a des délais à respecter en permanence, et sinon c'est notre responsabilité professionnelle qui peut être en jeu. Donc du coup, tu veux à un moment donné pouvoir te délester et souffler, et puis même... tu es soi-disant meilleur quand tu es en train de plaider sous stupéfiant. Moi, j'en ai jamais pris. Mais oui, c'est un fléau. Et je pense qu'on pourrait même faire ça aussi, tu vois. Limite, j'exagère, mais bon, avec l'ordre des avocats, de faire en sorte qu'il y ait un test qui soit produit, un résultat sanguin tous les six mois, qui soit donné à l'ordre.
Mais du coup, ça peut fausser aussi le travail de ces avocats qui se disent moi je défends des caïds parce que derrière ils me
le rachètent
ils peuvent être complices aussi
c'est évident que ça existe hein, c'est sûr.
Je vais te poser une question alors qui ne va pas te plaire
vas-y dis-moi dans ton milieu ou Olivier Truchot moi il a peut-être une addiction au Chablis Olivier peut-être
mais est-ce que tout ça n'a pas un rapport quand même dans les sociétés occidentales avec la déchristianisation parce que les gens ne prennent pas de la drogue depuis qu'ils n'ont plus de Dieu.
Non, je pense pas, non.
Ah bon ?
Non, non.
Le vieil anticlérical que tu es.
Non, écoute, parce que je pense que malheureusement, vois lien, tu parlais tout à l'heure de la violence. Je pense que la prise de stupéfiants est depuis que la civilisation existe, okay. les dérivatifs. Enfin, c'est toi qui es philosophe, anthropologue, tu connais ça.
Les dérivatifs,
malheureusement, non, ça a toujours existé.
Je pense que la religion,
la religion, c'était l'opium du peuple, comme le disait Marx.
Voilà. Donc, besoin de moins d'autres, types d'opium.
Moi, j'ai travaillé 10 ans en boîte de nuit, moi, pour payer mes études.
T'étais videuse.
Non, j'étais barmaid. Je ne voulais pas être en contact avec les gens, donc il fallait qu'il y ait la distance avec le bar, et je voyais, puisque pendant 10 ans j'ai fait toutes les boîtes de nuit de Paris, j'ai fait le VIP, le Régine, le Queen, etc. Et donc c'était propice à ce qu'il y ait quand même des gens célèbres et des gens aussi de la classe politique. Je ne vais pas vous mentir, oui, je savais pertinemment qu'il y avait des gens qui consommaient.
Faut-il licencier les consommateurs, être plus sévère avec les consommateurs? Et je remercie Thibaut d'avoir été avec nous. Oui, vous dites à 65%. C'est une étude Via Voce qui est relayée par nos confrères du Figaro à propos des jeunes et de leur parcours étudiant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a 7 jeunes sur 10 qui quittent leur ville, qui quittent leur région, qui quittent leur endroit pour aller vers des études supérieures. Mais ce qui est d'autant plus intéressant aujourd'hui, c'est de voir qu'après leurs études dans ces villes, plus ou moins loin de chez eux, ils sont à 40% à revenir dans leur région ou à souhaiter revenir dans leur région. Dans la majorité des cas, c'est retrouver la proximité avec leurs proches, se réenraciner. Alors c'est intéressant de voir aujourd'hui qu'il y a une espèce de retour. Alors retour au terroir, ça sous-entend que tous ceux qui sont partis, c'est un retour à la campagne ou pas. Non, c'est plutôt un retour aux racines. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? 32-16 pour en parler avec les jeunes, avec les grandes gueules, Fatima.
Ben moi je les comprends vraiment, parce que j'ai quitté Poitiers pour venir dans le 91 et ensuite dans le 93. Et mon objectif, je me disais, quand j'aurai des enfants, je retournerai plutôt du côté de Poitiers, parce que pour moi, c'était le meilleur endroit pour élever des enfants. Déjà, rien que l'immobilier, il y a plein de choses, de vivre à la campagne, la relation, enfin, il y a plein de choses. Je n'ai pas pu le faire, parce que, étant professeur, ça dépend du nombre de points. Et moi, en plus, j'avais accumulé des points, mais je les ai perdus. Donc, je suis un peu coincée pour retourner comme ça. Et on retrouve, finalement, c'est pas vieux, c'est une vieille histoire. On retrouve le poème de Dubélé. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ok, mais la suite, c'est... Et puis, retourner, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Heureux celui qui part, mais qui peut aussi revenir. Vous voyez, il y a ce départ, le voyage, on rencontre, c'est des racines et des ailes, en vrai. L'idée d'aller voir ailleurs, de comparer, à un moment, on peut aimer aussi ce qu'on a quitté.
On a Sylvie qui veut intervenir dans les GG. Bonjour Sylvie, nous appelle d'Agen. Cette étude, du coup, ça vous renvoie à votre fille?
Ah oui, alors là, si vous saviez comme je suis heureuse. Alors ma fille est partie parce qu'elle voulait sortir de sa zone de confort il y a 3 ans. Donc elle est partie à Menton.
Elle a fait sud-ouest, plein de sud-est. Oh, d'accord.
C'est ça. Donc elle est partie à Menton faire ses études d'infirmière, qu'elle finit dans 3 jours et elle revient début août. Très heureuse parce que, en fait, si vous voulez, elle est partie. Ce qu'elle va retrouver, c'est, elle est chez elle dans le Lot-et-Garonne. Elle a ses amis, elle a sa famille. On mange bien, on vit bien. Les gens sont accueillants. La vie est moins chère. Et donc c'est un bon.
Mais elle revient parce qu'elle va pouvoir travailler là-bas aussi.
Ah ça y est, elle a déjà trouvé du travail en tant qu'infirmière.
C'est quand même ça. J'imagine, c'est pas le travail qui manque.
Le nerf de la guerre, donc, il est quand même là.
Pour elle, c'était les études d'un côté et ensuite dès que je peux, je reviens à la maison, quoi. En fait,
voilà,
c'est ça.
C'est ça. C'était tout à fait ça. C'était les études, sortir de sa zone de confort parce que c'est une grande sportive, donc elle a fait beaucoup de marches et tout ça. C'est vrai que le décor à Menton est très beau. Mais sortie de là, la vie pour un étudiant, c'est pas possible. Les gens sont spéciaux à Menton, on va dire.
Ah bon?
Oui, c'est très spécial.
Elle aurait dû continuer à Nice.
C'est la haute bourgeoisie quand même.
Ah bon, à Menton?
Ah oui.
Ah ça alors.
Il y a sûrement une partie de Menton qui est la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, je sais pas. Mais en plus, elle est sportive, elle a tout l'arrière-pays mentonnais, elle a l'arrière-pays niçois, elle a tout ce qu'il faut, elle a les Alpes-Maritimes à sa disposition. Voilà. Mais elle préfère revenir à Agen.
Eh oui, elle revient à Agen. Ben oui, il fait bon vivre dans le Lot-et-Garonne.
Sûrement. Il fait très chaud en ce moment, mais il fait bon vivre.
Oui, il fait très chaud, oui.
Alors Didier, qu'est-ce que tu en penses de cette étude? Et merci à Sylvie d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne
journée.
Je suis un peu dubitatif sur les conclusions de l'étude. Je pense quand même que tout ça, c'est lié au travail. Moi, je vois plus de jeunes qui partent du village et qui restent à la capitale régionale minimum plutôt que des jeunes qui reviennent au village, quoi. Voilà. C'est quand même ce que je vois, mais c'est lié au travail. Alors après, aller étudier à la capitale et revenir dans sa région d'origine, si t'as dû trouver du boulot dans la grande ville d'à côté, oui, c'est certainement un phénomène, mais je vois plus de jeunes qui s'en vont que de jeunes qui reviennent. Voilà. C'est quand même ça une constante, et ça met en péril mon métier. Aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup des fois d'indépendance alimentaire de la France. Une des raisons pour laquelle on perd du terrain sur l'indépendance alimentaire, c'est l'installation des jeunes en agriculture. Et dans ces jeunes qui reviennent au pays tel que c'est décrit, je pense que c'est aussi des jeunes qui créent leur propre activité. Voilà. Les quelques cas que j'ai en tête, c'est des jeunes qui créent une activité. Mais quand tu vis dans un village rural un peu désertifié, l'activité salariée est inexistante.
Mais cette tendance, voilà, elle est facilitée notamment par les nouvelles technologies.
Oui, c'est ça.
Le fait que tu peux revenir t'installer chez toi, il n'y avait pas forcément tout le travail nécessaire, mais tu peux être derrière ton ordinateur et puis partir simplement un ou deux jours, comme tu dis, à la capitale régionale ou ailleurs, quoi, sans habitant.
Mais c'est tant mieux. Il y a une vraie tendance chez les jeunes de retrouver une qualité de vie. Et c'est vrai que avoir des enfants, vivre dans une maison, avoir un jardin, s'occuper de son jardin à un prix nettement inférieur à ce qu'on peut avoir dans les grandes villes, c'est un rêve, c'est une aspiration de beaucoup de jeunes. Peut-être pas à 18, 20 ans quand ils sont au cœur de leurs études et qu'ils ont envie de rencontrer des potes, d'aller à des expos, etc. Mais voilà, sauf que, là encore, on reparle de la France pendant 50 ans, la question de l'emploi, c'est-à-dire que il y a énormément de zones rurales en France non exploitées et sur lesquelles les jeunes pourraient largement s'installer. Le bâti et le patrimoine abandonné dans des villes où personne ne peut aller habiter est incroyable. Il y a des hôtels particuliers, des maisons de village, personne n'en veut, etc. Mais comme on n'a pas construit une France qui est pas très grande, d'ailleurs, la France c'est pas le Brésil, qui est pas très grande, on a supprimé les transports, on a supprimé
les liaisons transversales,
les liaisons, etc. Tout est fait
en jacobin.
Voilà.
En
France, et donc, comme on n'a pas industrialisé, décentralisé, mis de l'économie partout sur tout le territoire, et ben ça dissuade, comme tu dis, il y a pas de travail, j'y vais pas. Mais si demain on construisait tous ces endroits, mais il y a plein de jeunes qui iraient y vivre demain.
Mais ça, on est d'accord sur le potentiel.
Voilà.
Après, derrière
ça, je les comprends.
Dans les jeunes ménages qu'il y a autour de chez moi, enfin, je suis désolé, les pavillons, je vois plus le robot tondeuse que des mecs qui arrosent des salades et des tomates, quoi.
Ah, des tondeuses.
Non, c'est une légende.
Simon, bonjour.
C'est une légende, ça.
Bonjour, Simon. Bonjour. Éleveur de vaches du côté de la Motte d'Aveillans, dans l'Isère, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Et vous êtes revenu, vous?
Ah, moi je suis revenu, oui, après des études d'ingénieur et puis travailler dans l'ingénierie en région parisienne pendant plusieurs années, je suis revenu pour reprendre l'exploitation agricole familiale. Mm-hmm. Et j'arrose mes salades, hein, contrairement à ce que tu disais.
Pourquoi vous êtes revenu alors?
Vous êtes le parfait contre-exemple.
Oui, voilà, je pense qu'il faut quand même quelques contre-exemples. Je suis revenu pour deux choses, pour reprendre voilà un héritage familial et puis perpétuer, on va dire, le métier, mais également aussi pour un cadre de vie en pensant à mes enfants, grandir dans des conditions à la campagne qui sont quand même bien plus, je pense, bien plus agréables pour des enfants, dans la nature, d'avoir effectivement un jardin, tout ce qu'il faut pour grandir dans de belles conditions, quoi.
Salut Simon, merci d'avoir été avec nous dans les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
L'ambiance, la Lituanie lance des mesures inédites. Objectif, faire en sorte que population refasse des enfants. Le gouvernement propose donc de rénover les discothèques, pour favoriser les rencontres entre les jeunes.
Bah oui, parce que en fait, le gouvernement fait le constat que les jeunes se rencontrent moins qu'avant. On est beaucoup, quand on est jeune, sur les réseaux sociaux, chez soi, etc. Donc il faut favoriser les rencontres entre jeunes et rien de mieux que la discothèque. Et d'ailleurs, en Lituanie, les discothèques existent encore, mais elles sont surtout fréquentées par des personnes plus âgées, d'âge mûr, qui n'ont plus besoin de faire des enfants. Donc il faut que les jeunes générations... Bah c'est toi, Laura. Il faut que les jeunes générations retournent en boîte, enfin qu'on recrée des boîtes, retournent, se rencontrent, se séduisent, fassent l'amour, des bébés, et que la Lituanie se repeuple. Alors le problème de la Lituanie, c'est le problème de tous les pays occidentaux, parce qu'on a exactement le même problème. Nous aussi, on fait moins de bébés. Donc est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faut favoriser les rencontres ?
Multiplier, rénover, relancer les boîtes de nuit. Alors, boîte, t'as connu ?
Boîte ah ouais, de nuit, moi ouais. j'ai bah, en plus
t'as bien donné.
Milieu de la restauration, autant te dire que on bossait tous, toutes les équipes du Triangle d'Or, on se retrouvait tous, du Meurice, du Plaza et tout, on se retrouvait tous, c'était génial. Mais par contre, c'est bizarre ce que tu dis, que justement les gens de mon âge, on est plus en fait, c'était une réflexion que je me faisais quand je suis sortie 2-3 fois cette année, ou même l'été où t'es un peu plus festif. À chaque fois, je regardais avec mes copines, je dis mais putain, ils sont où les jeunes ? Et en fait, on les regarde.
Les jeunes vont plus en boîte de nuit.
Alors, encore, s'ils sortent quand même, mais sur la piste de danse, déchaînés, à s'amuser, à parler avec des gens et tout, c'est des gens de notre âge. Les jeunes, ils sont au bar avec leur téléphone. J'ai proposé plein de fois au petit cousin de mon mari de le faire sortir. Il me dit non, nous on veut pas sortir. En fait, c'est triste parce que je trouve que tu regardes en terrasse, moi, quand j'étais en école hôtelière, nous, premier rayon de soleil, personne prenait son RER pour rentrer chez soi, on se retrouvait tous en terrasse et on papotait et tout. Et alors, c'est peut-être une image, j'aimerais qu'il y ait des jeunes qui nous appellent pour me dire pour me contredire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de liens sociaux entre la jeune génération maintenant.
Je suis pas... Toi, tu penses que si les jeunes couples ne fondent pas de famille, c'est aussi parce qu'il manque de lieux pour se rencontrer.
Il manque pas de lieux forcément, mais de liens sociaux. Après, je suis pas sûre qu'une boîte de nuit, ça peut être très cool, mais j'ai jamais.
C'était quand même l'endroit pour draguer.
Bah, écoute,
non
moi, dans toutes mes années jeunesse, j'ai ramené un mec de boîte et franchement, je ne garde pas un souvenir ému. Je me suis réveillée le lendemain.
Parce que tous les mecs ont pris des râteaux.
Je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai fait qu'est-ce que c'est, Laura ? Qu'est-ce que t'as bu hier, mon Dieu ? Mais sinon, moi, en boîte de nuit, j'y allais avec mes copines en basket. T-shirt, jean, on ne venait pas là pour faire les pépettes, on venait danser, s'éclater, rentrer à 6h du matin avec le mascara qui a coulé, la couette comme ça, on venait s'amuser. Mais après, voilà, moi j'ai jamais dragué en boîte, je suis jamais allé en boîte pour faire des rencontres.
Alors, boîte de nuit pour relancer la natalité.
Jean-Loup, vous y croyez ou pas ?
Je raconte deux choses sur les boîtes de nuit. J'apporte deux informations sociologiques. La première, c'est que vous savez que justement, en France, le monde des boîtes de nuit est en crise. Il y en a beaucoup qui ferment parce que c'est moins fréquenté. C'est moins fréquenté par les jeunes. Et donc, moi, j'ai fait une enquête. Je suis l'homme de terrain du pays réel auprès de mes élèves qui ont 17-18 ans. Et certains, en effet, ont envie, dès qu'ils auront 18 ans, d'aller en boîte de nuit. Ça les attire, mais ils sont quand même nettement minoritaires pour une raison très simple qui est l'individualisme. C'est-à-dire, ils disent, mais monsieur, il y a un DJ, on ne peut pas choisir notre musique. Alors que si on fait une soirée entre potes, on a notre playlist. Oui, concept de la playlist. Et donc, en fait, le caractère assez collectif de la boîte de nuit heurte aujourd'hui l'hyper-individualisme des jeunes.
Grand-chose.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais donner une petite anecdote sociologique. Vous intéressant parce que parler des jeunes, alors je sais pas jusqu'à quel âge on est jeune, mais en fait, moi j'ai fait des études, j'ai été normalien et tout. Je connais beaucoup de femmes qui ont fait des études de haut niveau. Qui ont tout sacrifié à leur carrière, soit dans l'enseignement, soit dans d'autres carrières, et qui, à 37, 38, 39, 40 ans, se retrouvent sans enfant, sans compagnon, et aimeraient bien avoir un enfant. Et en fait, j'ai discuté avec pas mal d'amis ou de connaissances féminines qui, en fait, à cet âge-là, entre 35 et 40, vont en boîte de nuit pour trouver un partenaire, mais c'est pas pour faire une rencontre, c'est pas pour trouver un mari, c'est pour, comme le disait Goldman, faire un bébé toute seule et lever un géniteur. Et en fait, c'est une tactique de femme diplômée. Je connais au moins trois filles.
Méfiez-vous de la femme diplômée.
Alors,
non,
mais je connais trois filles.
Pour Jean-Loup, c'est méfiez-vous des femmes tout court.
J'ai trois amies qui ont fait de très belles carrières et qui ont toutes eu un enfant. Sans être marié, sans compagnon, et qui ont utilisé la stratégie du bar ou de la boîte de nuit. Et ça a marché. D'ailleurs, je m'en réjouis, je les félicite.
Donc ça, la tactique lituanienne
marche.
C'est des belles anecdotes.
Un peu plus, un peu plus âgé.
Charles, tu allais en boîte de nuit quand tu étais
plus jeune. Je me réjouis de ce réarmement démographique.
Bien sûr, j'allais en boîte de nuit, j'adorais ça, moi. Non, ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est la tendance à ne pas faire d'enfants, y compris, je vois dans ma génération, des jeunes femmes pour lesquelles tout va bien, qui ont un boulot, qui sont bien portantes. Il y a aucun problème, mais voilà, elles décident qu'ils sont en couple. Mais elles veulent pas faire d'enfants.
Ils sont deux quand même.
On le voit dans les chiffres.
Oui, mais je remarque que c'est souvent une décision. C'est souvent une. Par exemple, je parle de cas où le couple est postérieur à cette décision, si tu veux. C'est-à-dire qu'elles ont acté. On ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Vers l'âge de 30-35 ans, que de toute façon, elles feraient pas d'enfants parce que ça les intéresse pas. Et moi, j'ai plusieurs cas dans ma génération. Je vous dis encore une fois de femmes qui ont un profil qui fait que je pense qu'à la génération précédente, elles auraient fait des enfants. Donc je trouve ça assez curieux et je pense qu'entre ça, qui donc, enfin, je veux dire, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on a comme vie après si c'est indéfiniment sortir avec ses copains, boire des coups en terrasse, y passer un certain âge, c'est quand même un peu triste et un peu ridicule quand même.
Si je peux me permettre.
Donc entre ça et les jeunes qui effectivement. De plus en plus n'ont plus de contact réel avec leur prochain, mais n'ont plus que des contacts virtuels, on va effectivement vers une humanité très réjouissante. De toute façon,
non, mais ça va être un problème numéro un, d'ailleurs. On n'entend pas beaucoup les responsables politiques, on verra. Si dans la campagne, ça sera un sujet, mais quand même, le problème numéro un, ça va être la natalité, parce que tout notre système, nous, de redistribution sociale repose sur le renouvellement des générations.
Pour répondre à Charles, t'as quand même, et c'est socialement démontré, tu as des anthropologues qui en parlent, des sociologues qui en parlent. Si tu veux, tu as une équité dans le couple quand il n'y a pas d'enfant qui est plutôt égale. C'est-à-dire que tout le monde se partage à peu près les tâches, etc.
Et tu ne vas pas refuser de faire des enfants pour avoir une équité dans les tâches ménagères dans le couple.
Non, c'est pas ça que je te dis. Quand l'enfant. Pourtant, c'est prouvé et démontré. Et il y a même des IRM qui ont été faites sur des jeunes papas, etc. Et en fait, quand l'enfant arrive, l'homme, automatiquement, repart du principe que, intrinsèquement, le rôle de la femme est à la maison. Et en fait, si tu veux, tu as une disparité qui se crée. Donc, quand autour de toi, tu as vu des femmes qui étaient super actives, qui avaient leur vie, qui arrivaient à jongler entre le boulot, la vie de famille, etc. Et que tu te rends compte qu'à partir du moment où elles sont devenues maman, tout s'arrête. Ça peut-être refroidir. Moi, c'est.
Pas ça.
Attendez, Renaud a une anecdote à nous raconter. Il est du côté de la Gironde. Bonjour, Renaud.
Bonjour, Yvan Gueule.
Bienvenue. La boîte de nuit, vous y avez rencontré votre épouse?
Ouais, c'est ça. C'était en 2006. J'ai rencontré ma femme en boîte. On avait des amis en commun. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça. Et ben là, ça va faire 20 ans cet été là, qu'on est ensemble.
Eh ben, félicitations.
10 ans de mariage. Bravo. Et deux enfants.
Donc, en fait, une rencontre en boîte de nuit, c'est pas seulement la rencontre d'un soir.
Non, c'est ça exactement. Bon. Et puis même d'ailleurs, en parlant de la natalité, je pense que mon fils a été fait un soir de chic en retour de boîte. Et
Alors écoutez, Renaud, c'en est pareil pour ma fille. Ma fille a été conçue exactement.
J'aime chez Renaud, c'est son romantisme.
mais au final, ça a fonctionné. Donc après, je pense qu'on n'est pas les seuls.
Vous êtes encore assez jeune et ça vous arrive de nouveau de sortir en boîte de nuit ou pas, Renaud?
Sa femme.
Non. Depuis qu'on a eu notre premier enfant, on a complètement décroché après.
D'accord. Et autour de vous, il y en a encore qui sortent ou pas?
Non.
Vous avez quel âge, Renaud?
C'est une mode qui a passé. J'ai 36 ans.
Ouais, c'est ça. Mais ça a passé.
Moi, je sors encore. Hein.
Oui, mais pas en boîte de nuit, si.
Bah si.
Oui, mais avec tes copines, pour faire des rencontres.
Ah bah non.
Et donc, c'est rien à voir avec le sujet.
Bah, si, parce que Renaud, il dit qu'ils ont plus du tout depuis qu'il y a des enfants.
Mais non, mais le sujet, c'est est-ce que quand tu as 20 ans, entre 20
vous
et 25 ans...
Vous avez demandé s'il était sorti depuis...
Ou 20 ou 30 ans.
Mais par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que la baisse de la natalité est un phénomène mondial.
Mais Renaud, plus chaud, Renaud.
Renaud, quand vous alliez en boîte de nuit, c'était pour draguer, effectivement.
Non, pas spécialement. À l'époque, moi, j'étais quand même assez timide, donc c'est juste que ça s'est fait comme ça, en fait. Mais non, c'est pas pour...
Alors, Renaud, on va être avec Jérôme qui est du côté du Morbihan. Bonjour Jérôme.
C'est l'amour de la musique pour Renaud.
Jérôme, est-ce qu'il faut relancer les boîtes de nuit pour avoir des rencontres, des couples qui se créent, qui se forment et des enfants? Alors dites-moi.
Bah, je pense que ça va être compliqué à relancer. Moi, ce que j'ai pris comme exemple quand j'ai appelé au standard, moi j'ai un fils qui a une vingtaine d'années. Et en fait, ils ont changé absolument leur logiciel de faire la fête, quoi. C'est-à-dire que Aller en boîte de nuit, payer un verre 15 euros, ne plus pouvoir rentrer parce qu'on a dépassé le taux d'alcoolémie et toutes les contraintes. Oui, eux, ils ont trouvé la solution. C'est-à-dire que quand ils ont envie de faire la fête, alors c'est pas forcément pour draguer ou quoi que ce soit, ou quoi, c'est que ils se louent une petite maison en Airbnb, ça leur coûte 10 balles chacun, ils achètent un peu d'alcool, un peu à bouffer, excusez-moi de l'expression. Et en fait, ils font des fêtes, mais autrement, quoi.
Donc, oui, mais ils font des fêtes, ils mettent la playlist sur un ordi.
Le problème, c'est qu'ils se font entre eux, ils se connaissent déjà. Parce que l'intérêt d'une boîte de nuit, c'était de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, c'est aller vers l'inconnu. Là, si vous êtes avec la même bande de potes, c'est pas avec cette bande de potes, vous allez faire des enfants.
Vous savez comment ça se passe dans les bandes de copains, on amène une copine qu'on connaît pas, un autre copain qui s'arrive pas, c'est qui. Mais c'est une autre façon de faire la fête, mais de toute façon, les jeunes, même pas. Bah, excusez-moi, mais vous allez en boîte de nuit, vous en avez pour 15 balles pour faire un pot whisky coca ou mangou, sucer des glaçons puisque vous buvez du whisky.
Oui, mais ce qui a disparu, pardon de vous contredire, Jérôme, mais moi je pense que ce qui a disparu aujourd'hui, c'est quand on est en boîte de nuit, on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas, c'était un peu l'inconnu, etc. Maintenant, effectivement, peut-être que dans cette nouvelle génération, on veut rester entre soi, ses amis, voilà, il y a une espèce de truc cocon, un peu, c'est plus rassurant. Alors, en boîte de nuit, on se retrouvait avec des gens, on savait pas qui on allait tomber.
Ouais, mais je pense que les jeunes ont une autre vision de maintenant aller se mettre minable comme nous on faisait, excusez-moi du terme, mais moi j'ai eu 20 ans aussi, aller aussi pour se mettre à l'envers et
ça a aidé à draguer.
Voilà, on allait faire la fête, quoi. Maintenant, les jeunes ont une autre vision de la fête.
Ils se mettent minables aussi dans des logements Airbnb, hein.
Ouais, mais au moins ils sont sur place, ils prennent pas la voiture.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Pas d'accident. C'est vrai. Et moi quand j'entends mon fils qui me dit je pars en week-end, on fait la fête ce week-end.
Je suis plutôt
rassuré de le savoir dans une maison où personne prend la voiture, où les clés sont sous clé pendant tout le week-end, et qu'il redécolle le dimanche soir, que de me dire il part en une boîte de nuit.
Mais justement, quel âge il a votre fils, Jérôme?
Il a une trentaine d'années maintenant.
Ah ouais, et il est marié, pas d'enfant.
Marié et des enfants, si.
Ah, marié et des enfants. Ah, il continue de sortir et de s'éclater avec ses copains.
Mais ils sont toute une bande de couples, de jeunes couples dynamiques. Hein. Ils bossent, ils sont animateurs sportifs, pas d'accord. Mais c'est plus comme nous, on le faisait à 20 ou 25 ans, où moi j'étais saisonnier aussi dans la restauration, où on n'avait pas fini notre service, où on levait notre tablier, qu'on était déjà prêts en boîte de nuit jusqu'à 6 heures du matin. Et les jeunes ont chopé. Moi, quand je les écoute parler entre eux, je trouve qu'ils n'ont plus du tout la même façon de voir les choses que nous, quoi. Eux, ils se font leur petit week-end, je l'entends dire, ils sont contents de savoir, ils ont loué une maison.
Oui, mais du coup, ils vont pas faire d'enfants.
Jérôme et Renaud, merci d'avoir partagé vos expériences personnelles. Relancer la natalité, multiplier les boîtes de nuit, oui ou non. Qu'est-ce que vous en dites? Vous dites non, ça relance pas la natalité.
RMC, 9h, midi, le meilleur des grandes gueules.